Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. La semaine dernière, je vous parlais des réalisations de Sully concernant l'agriculture, la voirie, les canaux. Sur l'activité industrielle, les arts mécaniques, eh bien Henri IV, lui, il impose sa politique. Il est curieux de tout ce qui est technique et mécanique. Il s'intéresse aux mines, comme l'avait fait d'ailleurs Louis XI. D'anciens gisements abandonnés sont remis en exploitation. D'autres sont prospectés, comme par exemple des filons d'or et d'argent dans les Pyrénées, du plomb, de l'étain, du fer, du tal, du cuivre en Auvergne, de l'or en Bresse. On était riches, hein ? On abandonne l'exploitation de l'or et de l'argent finalement parce que ça coûte trop cher. Pour les autres mines, on crée une administration qui s'appelle Administration locale des mines et minières. Et il faut redresser l'industrie textile aussi, parce qu'on est obligé, elle a été ruinée par la guerre, si bien qu'on achète beaucoup à l'étranger. Par exemple, beaucoup en Italie. Alors, seuls les métiers de Rouen fabriquent encore des draps fins de laine. Un négociant qui s'appelle Lafma a écrit un mémoire qui s'appelle « Règlement général pour dresser les manufactures en ce royaume ». Il a calculé que 6 millions d'écus sortaient de France chaque année en achat de soieries étrangères. Alors, il dit « Il vaut mieux quand même fabriquer la soie en France ». Eh bien, la tradition existe déjà pour cette culture de la soie. Où ? Eh bien, à Tours. Et c'est Louis XI qui l'avait lancé. Alors, il propose, l'AFMA, d'interdire l'entrée en France des soieries manufacturées, mais de permettre l'entrée de la soie brute qui pourra être travaillée par des fabriques françaises. On pousse aussi la culture du mûrier et on crée alors des élevages de mûriers, on appelle ça des magnaneries. Sully, lui, ne s'intéresse pas beaucoup à la soie. C'est le roi qui l'apporte à un intérêt, on pourrait dire, presque obsessionnel. Tous les propriétaires terriens sont invités à créer des magnaneries. Le clergé notamment, et le roi montre l'exemple dans ses résidences. Alors décidé à faire de Paris la capitale des produits de luxe, Henri IV fait élever sur le terrain des Tournelles une manufacture pour les draps d'or et d'argent. Et il fait venir des ouvriers italiens, puisqu'ils s'y connaissaient bien. À Mantes, on concurrence les crêpes fines de Bologne, à Troyes les satins de Bruges. La concurrence s'étend aussi au cuir de Cordoue, aux verreries et miroirs de Venise et aux tapis de Turquie. Tout ça se fabrique maintenant en France. Le roi s'intéresse aussi aux conditions de travail. L'édit de 1597 généralise le régime des maîtrises à tous les métiers. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, contrôle de la qualité du travail, bonne gestion des communautés de métiers. Le roi, d'ailleurs, il loge chez lui, au Louvre, des ouvriers privilégiés. Ce sont ceux des métiers d'art, des orfèvres, des tapissiers, des armuriers, des horlogers, des graveurs, des menuisiers, des sculpteurs et des peintres. Tous à loge au Louvre. Le mot d'ordre, produire français. Ce sont les bourgeois et les gros marchands qui entrent dans les vues du roi. Henri IV entend poursuivre l'œuvre de son grand-oncle François Ier, c'est-à-dire s'impliquer dans les lettres, les arts, les sciences. Alors on ne peut pas dire que ce soit un grand lecteur quand même Henri IV. Hein. Jeanne d'Albret n'a pas réussi à transmettre ce goût-là qu'elle avait à son fils. Et lorsqu'il s'exprime dans ses harangues, il n'y a pas de fioriture. Quand il parle, Henri IV, c'est du direct. Quelquefois, c'est assez dru même. Pour ce qui est d'écrire, Henri IV donne ses idées. Et Jean Berthaud, l'évêque de Sens, ou François de Malherbe, écrivent. Il n'impose pas de censure. On écrit ce que l'on veut sous Henri IV. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire. Il ouvre une librairie royale dans les locaux vides du collège de Clermont, puis le couvent des Cordeliers. Il fait retirer du trésor de Saint-Denis la Bible de Charles le Chauve que les moines cherchaient à vendre et il récupère la célèbre librairie de Catherine de Médicis. Il protège Viète, qui est l'inventeur de l'algèbre. le roi charge Sully de créer un conservatoire des arts et métiers. Il se lance aussi dans la réorganisation de l'enseignement. Et là, on peut dire qu'il y a fort à faire. Le premier geste à faire, c'est de faire prêter serment de fidélité aux professeurs des facultés, aux lecteurs du Collège royal et aussi aux régents de tous les collèges. Les vieux traités du Moyen-Âge sont abandonnés. L'art de l'ingénieur et l'art militaire font leur entrée dans les programmes d'enseignement. Priorité, ça reste à la littérature latine. Le niveau de l'enseignement, cependant, reste médiocre parce qu'on revient vraiment de trop loin. Le roi s'intéresse donc à la compagnie de Jésus. Ce seront les jésuites, puis les oratoriens qui vont relever le niveau de culture des classes moyennes et supérieures. Vous vous rappelez que les jésuites avaient été expulsés de France et que le pape avait permis qu'ils reviennent. Henri IV rebaptise Collège de France le Collège royal qu'avait fondé François Ier. Quand on parle des arts, la peinture ne le touche pas beaucoup. Ce qu'il veut, c'est que les portraits soient ressemblants, que les allégories soient bien choisies et compréhensibles par tout le monde. Il confie à un premier conservateur des collections du roi les chefs-d'œuvre de Vinci, de Raphaël, que François Ier, donc, avait fait apporter d'Italie. Ça, c'est confié aux soins d'un ministère, on peut dire, de la conservation. Ce qu'Henri IV aime par-dessus tout, ce sont les bâtiments. D'ailleurs, les d'Albret et les Valois sont tous des princes bâtisseurs. Il aime déambuler dedans et dehors. Les chambres ne lui semblent pas importantes, il préfère lui des galeries et des jardins. Alors il n'y a pas de château nouveau sous son règne. Il reprend les résidences anciennes et il y fait des travaux de réparation. Il fait planter des arbres, il fait construire des pavillons et éventuellement il ajoute des bâtiments à ceux qui existaient. Tous les chantiers entrepris par Henri IV seront achevés. Alors, pour faire ces bâtiments, il faut trouver des architectes. Il a remarqué les talents d'un architecte issu d'une famille de constructeurs à Dreux, Louis Métezeau. On connaît, hein ? Il le fait travailler au Louvre et aux Tuileries. Sully, lui, généralise la pratique de l'adjudication pour les travaux. Tous les marchés sont passés devant notaire. Le premier chantier ouvert est celui du Louvre. Le palais est une construction mal agencée, elle est triste, elle est dépourvue d'espaces libres et de jardins, elle est gardée par une entrée médiévale très laide. Les travaux à faire sont évidemment énormes. Alors ils sont faits. Le roi désormais peut quitter sa chambre pour aller prendre l'air au parc des Tuileries, sans avoir évidemment à sortir sur la voie publique. Nous allons faire une première pause musicale. Alors de tous ces châteaux, finalement, même s'ils résident parfois au Louvre, celui que le roi aime beaucoup, c'est Fontainebleau et puis Saint-Germain-en-Laye. Alors il préfère finalement Fontainebleau. La distance de Paris est suffisante pour écarter les gêneurs, assez courte pour être franchie en quelques heures. Il y a de l'espace, il y a des jardins, un jeu de paume et surtout, on peut chasser dans l'immense forêt. Les travaux à Fontainebleau doivent permettre à la cour tout entière de s'y installer avec les membres du gouvernement. Henri IV fait dessiner des parterres et creuser un canal immense. La plupart de ses enfants, Louis XIII par exemple en tête, vont y naître et y être baptisés. On peut dire de Fontainebleau que c'est une capitale résidence. Saint-Germain, il l'aime beaucoup aussi, c'est une maison de chasse agréable, parce qu'il y a un bon air, une vue plaisante, et puis ça n'est pas loin du tout de Paris. On peut dire que c'est une résidence finalement de week-end. Alors on peut y aller sans s'y coucher, je veux dire on peut y passer la journée. L'architecture du château, elle est tristounette. Alors Henri IV va s'occuper d'une petite annexe plantée au bord de la terrasse, surplombant la Seine, et il va en faire le noyau central du nouveau château. Le château vieux, lui, est aménagé pour recevoir la nurserie du roi, parce que tous ses enfants, qu'ils soient légitimes ou illégitimes, y sont élevés à longueur d'année. Le Mercure français, c'est un journal, de 1610, célèbre Saint-Germain comme l'une des cinq merveilles de France. Alors, les rois précédents, si vous vous souvenez, allaient beaucoup dans les châteaux de la Loire. Eh bien, lui, il préfère abandonner les châteaux de la Loire au profit de la région parisienne. Toutes les résidences sont entourées de jardins. Et Henri IV s'y connaît. Il surveille les plantations, les greffes, les expériences d'espèces nouvelles. Il intervient aussi à Paris. Il reprend les ordonnances qui n'ont pas été appliquées, par exemple pour l'alignement des maisons, pour la police, pour la salubrité des rues. On double la quantité d'eau disponible pour la population grâce à l'invention de la pompe de la Samaritaine. Les travaux d'adduction d'eau sont financés par une taxe sur les vins. Le pont neuf est construit, on l'appelle toujours pont neuf, même si maintenant il est vieux par rapport aux autres, et construit d'une façon très particulière parce que jusqu'à présent, il y avait toujours des maisons sur les ponts. Et bien là, sur le pont neuf, pas de maison. Et une nouveauté aussi, des trottoirs. Construction aussi de la place royale, l'hôpital Saint-Louis est construit au nord de Paris, puis l'Hôtel Dieu, puis Saint-Marcel, puis l'hôpital de la Charité des Frères Saint-Jean, et enfin l'Hôtel de Ville, qui est achevé en 1607. Alors on va revenir maintenant à la situation matrimoniale du roi, parce qu'elle est plutôt emmêlée. Vous vous souvenez qu'il avait pour maîtresse Gabrielle d'Estrées, qui est morte, et le mariage avec Margot est dissous. Qui va-t-il épouser ? Alors, il connaît toutes les princesses qui sont à marier. On regarde ce qui est le plus avantageux. On ne regarde pas la tête qu'elle a, la princesse. On regarde ce qu'elle apporte. Eh bien, la plus avantageuse, c'est une Italienne, une Florentine. Elle a tous les avantages parce qu'elle est fort riche. C'est une Médicis aussi. Mais ça n'est pas Catherine, cette fois-ci, c'est Marie. Et ça lui vaudra les faveurs du pape. Alors, les catholiques de France sont sensibles à ça, ils sont contents. C'est pas une ancienne lignée, les Médicis, C'est pas une ancienne lignée princière, mais ils sont très, 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 et je pourrais continuer longtemps comme ça, riches. Le mariage est donc prévu avec Marie de Médicis. Bah, ça n'empêche pas Henri IV, évidemment, de continuer ses amours. Il s'éprend d'Henriette d'Entragues. Elle est brune, elle est mince, l'œil vif. Elle a le regard effronté, un esprit de répartie que n'avait pas Gabrielle d'Estrées. Et elle est très instruite. La famille fait bloc. Pourquoi ? Eh bien, quand on est maîtresse du roi, on peut espérer que la famille aura des avantages. Eh bien, c'est ce qui se passe. Alors, il est tellement amoureux qu'il perd toute prudence et qu'il écrit, qu'il promet... Au cas où que dans les 6 mois, Henrienne devienne grosse et accouche d'un fils, qu'il l'épouserait. Ça n'empêche pas, pendant ce temps-là, on continue les tractations avec Florence, En attendant, il lui trouve une résidence près du Louvre. Le bruit court qu'elle est enceinte. Alors, la famille d'Entraigues jubile. Début juillet, à son 7e mois, lors d'un orage, la foudre tombe sous le lit d'Henriette. De frayeur, elle accouche prématurément d'un fils qui n'est pas viable. Alors, pour la consoler, le roi lui donne carrément le comté de Beaugency. Le roi se sent dégagé de sa promesse, bah oui, puisque le fils n'est pas vivant. Marie de Médicis est quand même en route. Le roi a envoyé à Florence une suite brillante de gentilshommes pour chercher la nouvelle reine. Les noces ont été célébrées par procuration à Florence le 5 octobre dans un faste absolument extraordinaire. La suite de la reine comporte 2000 personnes et tous ces gens-là s'embarquent sur une flotte de 18 galères. On arrive donc à Marseille le 3 novembre 1600. Je vous dis tout de suite que Henri n'est pas là. Alors, qui est-elle cette Marie ? Marie, elle a déjà 27 ans, c'est vieux pour l'époque. Hein. Henri, il en a 47. Elle a été orpheline de mère très jeune. Elle a été élevée au palais Pitti avec sa sœur aînée et ses cousins. Une enfance triste et confinée. On lui a fait une description des Français et on lui a dit la chose suivante. Les Français, ils sont sans lettres. Ils n'ont pas d'éducation. Ils sont grossiers, bavards et insolents. Quel portrait, hein. Intellectuellement, elle a peu de jugement. Elle est timide, mais très suffisante. Elle sait qui elle est. Elle a des difficultés à prendre une décision et on peut même dire qu'elle est paresseuse. Ça ne lui fait pas beaucoup de qualité à cette pauvre. Hein. En fait, elle ne s'intéresse qu'aux petites idées, aux petites choses. Elle est tout à fait insignifiante. Elle possède cependant un goût extrême pour la richesse et elle adore les pierreries. Au physique, elle est grande, plutôt épaisse, des traits lourds, une grosse bouche lipue, le front bombé, les cheveux châtains, les yeux noirs. Et hélas, un caractère maussade et querelleur. Pas un tableau réjouissant. Alors le cortège remonte la vallée du Rhône. Toujours pas d'Henri. Il est où, Henri ? Il est à Lyon, avec Henriette. Les membres du conseil, connaissant l'indiscrétion dangereuse de la dite Henriette, se fâchent et disent au roi que ça peut pas durer. Marie est logée au palais de l'archevêché de Lyon. Le 9, elle s'apprête à souper. Il est 20h. Elle soupe seule, comme le veut le protocole. Arrive la varenne. La varenne, c'est l'homme à tout faire du roi. La reine se lève de table. Le roi s'est caché dans la galerie de circulation. De derrière les courtisans, il observe. Le port de taille et la démarche quand même très majestueuse de Marie. Bah, il trouve finalement que l'impression est bonne. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous parle d'Henri IV qui s'apprête à épouser Marie de Médicis. Donc, il la voit, finalement il se présente à la porte de la chambre de la reine, elle l'ouvre, elle se prosterne, le roi la relève et l'embrasse. Alors, qui est-ce qu'elle voit ? Ben, un roi de taille médiocre, la barbe blanche, le nez très brusqué, les yeux pétillants, il a les cheveux en broussailles, sa tenue est très négligée. Henri IV, lui, n'attend pas la bénédiction du légat et demande l'hospitalité à la reine parce que, dit-il, les meubles n'ont pas suivi. Vous savez qu'à l'époque, quand on se déplaçait d'un château à un autre, les châteaux n'étaient pas meublés. Hein. On apportait tous ses meubles, toute sa vaisselle, tout ce qu'il fallait. Il paraît que tout le monde est content de la nuit de noces. La bénédiction a lieu le lendemain à la cathédrale Saint-Jean. Au bout d'un mois, Henri piaffe, parce que la barrière de la langue et le peu d'esprit de la reine font que le roi s'ennuie en compagnie de Marie. L'entourage de la reine commence à lui peser, parce qu'il y a là 2000 Italiens qui obéissent à d'autres règles que les siennes. C'est une véritable colonie portée à l'intrigue et à gouverner l'esprit de la reine à son profit. Le cousin Orsini tourne un peu trop autour de la reine, alors le roi le réexpédie à Florence. Mais il y a un autre homme qui inquiète le roi, et qui inquiétera aussi le futur Louis XIII. C'est un petit aventurier, décidé à faire fortune à Paris. Il s'appelle Concino Concini. Il n'a rien trouvé de mieux pour aider la fortune que de demander la main de la compagne inséparable de Marie. Elle s'appelle de son vrai nom Dianora Dori et elle le change en Leonora Galigai. Elle est laide, maigre, noire, fort intelligente. Elle gouverne absolument la reine. Tout le monde rit de ce projet de Concini épousant Galigai. Et le roi finit par y consentir en juillet 1601. Henri part pour Paris, précédant la reine. Il y arrive le 24 janvier et repart pour Verneuil, où il retrouve Henriette. Après quelques jours passés joyeusement, le roi va au-devant de la reine. Ils font leur entrée dans la capitale le 9 février. La reine est conduite au palais du Louvre, où Henri IV ne réside presque jamais. Deux jours après, départ pour Fontainebleau. La maîtresse est carrément présentée à la reine. Et comme elle ne se prosterne pas assez bas, eh bien, Henri, d'une main fort rude, la pousse à se pencher davantage. Et voilà que deux naissances sont attendues en même temps. La reine s'établit à Fontainebleau avec une sage-femme qui s'appelle Louise Bourgeois. La naissance a lieu le 27 septembre 1601 à 22h30. C'est un fils. Le roi en pleure. Il ouvre la porte aux 200 personnes qui attendent. Le pape est sollicité comme parrain. Il veut bien. C'est Clément VIII. Bon, il ne se déplace pas lui-même. Il envoie donc un nonce extraordinaire, Maffeo Barberini, avec des langes bénis. Les mêmes d'ailleurs qu'il a fait envoyer en Espagne pour la naissance d'Anne d'Autriche. Cela fait 40 ans qu'on n'a pas vu de dauphin en France. Dans sa joie, Henri IV fait cadeau du château de Monceau-les-Maux à la reine. Alors, ce château, il l'avait donné avant à Gabriel. Alors s'installe une vie de famille. Le roi reste plus longtemps dans ses châteaux. Cette existence commune est menée avec un train bourgeois qui surprend les contemporains. Plus ils la dépassent, plus ils vivent ensemble. Marie n'a pas encore d'ambition politique. Elle s'occupe de ses femmes, ses serviteurs, pas beaucoup des enfants. Son seul objet de tracas, c'est Henriette, la marquise de Verneuil. La reine ne se laisse pas oublier. Elle est la femme légitime, si bien qu'elle fait à Henri IV des crises de jalousie effarantes. Sully est sans cesse chargé de ramener la paix dans le ménage. Cette union donne quand même naissance à 6 enfants. Le dauphin, Louis, ça sera le futur Louis XIII, hein, né en 1601, Élisabeth en 1602, future reine d'Espagne, Chrétienne, c'est son prénom, hein, en 1606, future duchesse de Savoie, Nicolas, duc d'Orléans, en 1607. Il ne va vivre que 4 ans. Jean-Baptiste Gaston, duc d'Anjou, en 1608. On l'appellera Gaston plutôt que Jean-Baptiste. Quand son frère meurt, il devient donc ce Jean-Baptiste, duc d'Orléans. Tous ceux qui suivaient immédiatement le roi avaient toujours le titre d'Orléans. Henriette en 1609, donc la dernière, future reine d'Angleterre. Margot, peu à peu, revient, vous rappelez, c'est la première femme d'Henri IV. D'abord à Villers-Cotterêts, puis au château de Madrid, dans le bois de Boulogne, et à Paris en 1605. Elle a promis de faire, ben oui, pourquoi est-ce qu'on veut bien d'elle? Elle a promis de faire du dauphin son héritier. Je vous disais tout à l'heure que l'on attendait deux naissances. Eh bien, un mois après la naissance du dauphin, Henriette met au monde un garçon qui s'appelle Gaston et qui sera comte de Verneuil. Il deviendra même évêque de Metz. Deux mois après la naissance d'Élisabeth, naît une fille, Gabrielle Angélique. La marquise trompe aussi abondamment le roi. Finalement, en 1608, elle est priée de rester sur ses terres de Verneuil. Mais le roi, lui, continue ses bonnes fortunes. Alors je vous en donne quelques-unes. Jacqueline Dubueil, par exemple, qui a été faite comtesse de Moret, qui donne un fils à Henri IV, Antoine, qui sera comte de Moret. Puis Charlotte des Essarts, comtesse de Romorantin, qui donne deux filles au roi. Tous ces enfants-là sont élevés ensemble. Hein. La première deviendra la très pieuse abbesse de Fontevraud. Alors j'en passe d'autres. Hein. On peut dire que toutes ces dames ont la patte du gain. Et l'opinion commence à s'émouvoir. L'ambassadeur de Florence dit que la cour d'Henri IV, et vous m'excuserez du mot, mais c'est ce que dit l'ambassadeur, c'est un vrai bordel. Il y va de la dignité du roi. Les amours, ces amours-là, le ridiculisent. Elles portent atteinte au respect sacré du mariage avec la mère du dauphin. Et puis de plus, ça coûte cher aux contribuables. Ce que l'on ne peut pas reprocher au roi, c'est de délaisser ses enfants, lui. Le roi, il a la fibre paternelle, très développée. Il aime beaucoup, par exemple, César de Vendôme, le fils de Gabriel. Quant au dauphin, Henri IV ne lui ménage pas son affection. Il prend grand soin de son éducation. Il l'éloigne de la cour, de Paris. Il l'éloigne du clan de la reine et de ses Italiens. Il choisit une femme à poigne comme gouvernante, la marquise de Montglas. La reine Marie n'a pas voix au chapitre. Tous les enfants du roi, quelle que soit leur mère, sont réunis à Saint-Germain-en-Laye. Écoutez ça, il y en a 6 légitimes et 5 illégitimes, j'allais ajouter, connus. Le médecin qui s'appelle Jean Héroir, un huguenot, nous a laissé un journal détaillé qui est une mine d'informations sur les enfants. Louis fait bien sentir qu'il est le dauphin. Sevré d'affection maternelle, parce que Marie finalement elle est cassante, elle vient rarement voir ses enfants, et parfois même elle le fait fouetter. Donc, sevré d'affection maternelle, Louis prend peu à peu un grand dégoût des femmes. Dégoût et mépris. Dès 1608, il dit qu'il n'épousera pas l'infante. Henriette d'Entragues lui fait horreur. La reine Margot est un épouvantail. Il voit que ses sœurs ne font pas d'exercice militaire. Eh bien, lui, c'est tout son univers, l'exercice militaire. C'est un enfant difficile et ombrageux. Quand à 9 ans, il va devenir roi sous la régence de sa mère, il va se replier davantage dans son entourage masculin. Il peut y affirmer son autorité et sa personnalité, loin des femmes qui l'intimident. Louis, il aime et admire beaucoup son père. Le père, donc, s'occupe de lui avec intérêt. Il lui parle, il le questionne, il l'instruit, il l'emmène se baigner, il développe beaucoup tout ce qui concerne l'art militaire. À la naissance, Louis XIII, le futur Louis XIII, comme tous les enfants d'ailleurs royaux, n'a été condoyé. Son baptême a donc lieu le 14 septembre 1606 à Fontainebleau. Le parrain, c'est le pape Paul V, qui s'est fait représenter par le cardinal de Joyeuse. Il reçoit le prénom de Louis, comme son ancêtre Saint-Louis. Janvier 1609, Louis quitte les femmes et même Saint-Germain. On lui donne alors un gouverneur, le maréchal de Souvray. Le roi lui constitue une maison et maintenant, il assiste au conseil, si jeune soit-il. L'accession d'Henri au pouvoir fait que bien des Gascons pensent qu'il pourrait réussir aussi auprès du roi. Alors on voit affluer au Louvre et à Fontainebleau toute une meute de quémandeurs. Le roi, lui, il n'ouvre guère sa bourse. La grogne s'installe alors chez les petits gentilshommes. Beaucoup sont pauvres, pas tous. Certains ont servi le roi, ils ne reçoivent pas leur salaire. C'est le cas par exemple de Jacques Bongars, le fidèle représentant du roi en Allemagne, depuis plus de 20 ans. Il réclame, rien ne vient. Le roi lui répond toujours que c'est pas le moment. Et on peut dire que Bongars y engloutit toute sa fortune. Les autres ambassadeurs ne sont pas mieux lotis. Si encore le roi donnait l'exemple, ben non. Il dépense sans compter pour qui ? Pour ses innombrables maîtresses. De plus, le roi joue gros jeu. Et Sully paie les dettes en rechignant. La rancœur se développe alors au sein de la noblesse. Et il s'y ajoute aussi des ambitions assassines. Qui sont ces ambitieux ? Eh bien, nous allons faire une dernière pause musicale.
Calentes martiris, absolve nexu Christi.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous parle d'Henri IV. Donc ces deux ambitieux-là, ce sont deux Gascons, le duc d'Épernon et le duc de Biron. Pourtant, le roi l'a comblé de bienfaits, il l'a fait amiral de France, puis maréchal de France, lieutenant général des armées. Il l'a fait duc et pair en 1598. Il a reçu le gouvernement de la Bourgogne. Mais Biron se voit à la tête de cette Bourgogne, lui, comme un état souverain. Cette province touche la Franche-Comté espagnole et la Savoie. Eh bien justement, Charles-Emmanuel de Savoie et Philippe III d'Espagne cherchent à recruter dans l'entourage d'Henri IV, qui est toujours leur ennemi. Pour eux, il n'est pas catholique. Le roi a refusé à Biron le gouvernement de la place de Bourg-en-Bresse. Alors Biron le trahit. Toutes les décisions du commandement militaire sont communiquées à l'ennemi. Henri IV l'apprend. Dans un entretien individuel, Biron n'avoue que la proposition que lui a faite Charles-Emmanuel de Savoie de lui donner sa fille en mariage. Henri IV le fait alors surveiller et il apprend que Biron fait partie d'un complot qui vise à l'assassiner. Le roi envoie à Biron alors deux émissaires pour clarifier la situation, le 31 mai 1602. Henri affecte de croire que ce ne sont que des mensonges et le convoque à Fontainebleau. Et malgré plusieurs interrogatoires, Biron n'avoue rien. Soutenu par son conseil, le roi alors le fait arrêter, conduire à la Bastille avec deux autres complices. Le procès de haute trahison est remis aux mains des conseillers au Parlement. La haute trahison est prouvée et Biron est condamné à mort le 29 juillet. Il est décapité le 31 dans la cour de la Bastille. En Périgord, l'opinion est commotionnée par cet événement. On en veut au roi et pour longtemps. Ce dernier a de mauvaises relations avec sa femme à cause de sa maîtresse et du fait qu'il a légitimé le jeune Verneuil. De plus, Henri est malade. Pourquoi donc? Eh bien, il mange avec boulimie, il a une mauvaise dentition, il a des ennuis intestinaux, il est atteint de la gravelle. La gravelle, ce sont des cailloux dans le rein, de la goutte. Il est souvent fatigué. Les médecins le mettent à un régime strict. Ben, dès qu'il va mieux, il n'en fait plus qu'à sa tête. À la fin de 1606, l'ère des attentats semble close. Le duc de Bouillon est maté, les entraques sont calmées, Auvergne est sous les verrous. Le roi vieillit, prolonge ses séjours alors dans ses résidences. De janvier au début avril, il est à Paris. D'avril à juillet, il est à Fontainebleau, avec des escapades à Saint-Germain ou à Villers-Cotterêts. Août à Paris, automne à Fontainebleau, décembre au Louvre. De 1607 à 1609, eh bien la France fait l'apprentissage de la paix. Les oppositions semblent, je dis bien semblent, s'estomper. Ses rapports avec Sully sont excellents. Avec la nouvelle reine, la cour de France connaît un bel éclat. Le jeu triomphe, Henri ne cesse de perdre. Les banqueroutes se multiplient, le luxe des vêtements atteint des sommets, un tourbillon de fêtes agite la jeunesse de la cour, on relance les jeux équestres, les bals, on y admire les élégances. Henri aime la musique, le chant, la danse, il aime aussi les farces, quelquefois un petit peu pesante, que débitent les comédiens italiens. Il y a trois troupes célèbres à l'époque qui font une tournée à la cour. Marie de Médicis, elle met sur pied un spectacle qu'elle pense être un chef-d'œuvre. Il est prévu le 31 janvier 1609. On répète au Louvre, le roi vient voir les répétitions. Il y a là 12 demoiselles qui dansent, je pense que vous avez deviné. L'une d'elles, 15 ans, Charlotte Marguerite de Montmorency, brandit un javelot et par jeu, elle vise le roi, qui qui, séance tenante, tombe amoureux d'elle. Cette passion pour Charlotte va bouleverser la dernière année de sa vie. Le père Charlotte se dépêche de la marier. Elle finit par épouser le prince de Condé à Chantilly le 17 mai 1609. Le roi s'attendait à un mari complaisant. Ben, c'est pas le cas du tout, parce que le Condé, il surveille sa femme. Alors le roi et Charlotte échangent des lettres tendres, très littéraires. Le mari ne doute pas du tout de ce qui arrive. Les attentions du roi sont tellement visibles. Alors une altercation assez vive d'ailleurs a lieu le 12. Condé traite le roi de tyran. Condé n'a plus qu'une obsession, emmener sa femme quelque part. Eh bien le 17, ils partent pour le château de Valry en Bourgogne. Ils sont obligés de revenir pour les noces de César de Vendôme, mais vite vite on repart en Bourgogne pour éloigner sa femme d'Henri. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Henri se rend en Bourgogne. Condé et sa femme, alors, se replient près de Soissons. Le prince organise une chasse. Charlotte reste au château. Le roi, déguisé, atteint le château. Il voit la belle à la fenêtre. Il lui envoie un baiser. Mais qui a vu ça? La maman de Condé. Vite, vite, elle avertit son fils, qui se décide alors à enlever sa femme pour la conduire à l'étranger. Et ils arrivent ainsi à Bruxelles. On avertit le roi. Ah oui, pour lui, le coup est rude. Hein. Les ministres stupéfaits sont convoqués pour donner leur avis sur la décision à prendre pour un cas qui ne leur paraît pas du tout relevé de la diplomatie européenne. Pourtant, c'est une affaire d'État, car un prince de sang, Condé donc, n'a pas le droit de quitter le territoire sans la permission royale. Et de plus, les relations avec les archiducs de Bruxelles ne sont pas bonnes. Donc, se réfugier chez eux, c'est faire cause commune avec l'ennemi. Certains ministres conseillent d'écrire aux ambassadeurs, de courir après les fugitifs, de menacer l'étranger. Sully, lui, y reste de glace. Il dit qu'il est urgent de ne rien faire. Villeroy, lui, il est prêt à mobiliser l'Europe entière contre les ambitions des Habsbourg. Je vous rappelle que c'est la famille qui règne non seulement sur l'Autriche, mais aussi sur l'Espagne, qui possède les Pays-Bas. Donc, quand on est à Bruxelles, ce sont les Pays-Bas à l'époque, hein, jusqu'en Belgique actuelle. Donc, en ce qui concerne l'héritage, alors il y a une histoire de l'héritage du duché de Clèves. Bon, c'est un peu trop long à vous expliquer, mais à la fin de 1609, le roi finalement engage des préparatifs militaires. Il possède maintenant une armée moderne qui a une artillerie redoutable. Et pendant ce temps-là, Charlotte se morfond au château et se distrait en écrivant au roi. Les grands seigneurs et les chefs militaires, eux, verraient bien une guerre qui arriverait à faire une campagne victorieuse. Les Huguenots, eux, crient à la guerre pour arrêter les progrès des catholiques en Allemagne et contrer l'impérialisme espagnol catholique. Pour le reste de la population, la guerre est impopulaire. Et bien pourtant, le roi entre en guerre. C'est pas seulement pour les beaux yeux de Charlotte. Il veut montrer qu'il est l'arbitre souverain de l'Europe, qu'il est concerné par les héritages susceptibles de renforcer la puissance de l'Espagne. S'il s'absente, Henri doit assurer alors la continuité de l'autorité monarchique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le gouvernement va rester à Paris, et puis la reine aussi, avec le dauphin, il a 9 ans. Elle va administrer le royaume, elle aura le titre de régente. Alors Henri sait bien qu'elle n'est pas très intelligente, si bien qu'il l'a un petit peu initiée aux affaires, mais surtout, il compte sur le conseil de régence où elle n'aura pas la voix prépondérante. Concini et sa femme disent qu'il manque à Marie d'être couronnée. Le dimanche des Rameaux, la reine presse son époux de lui accorder cette marque de confiance. Il hésite, ce serait une dépossession de son autorité exclusive, et puis ça coûte cher, il veut garder son argent pour la guerre. Bon, elle l'embête tellement que le sacre est fixé au 13 mai à Saint-Denis. Il est prévu une chasse à cour le samedi 15, et la reine entrera à Paris le dimanche. Alors départ pour le front le mercredi 19. 19 mai 1610. Le roi ne cesse de parler à Sully de ses pressentiments concernant sa mort. Vendredi 14 mai. La journée doit être consacrée à régler les affaires pendantes. Il assiste à la messe au couvent des Feuillants. De la journée, Henri ne tient pas en place. Il ne sait pas quoi faire. Ira-t-il voir Sully malade? Il passe chez la reine, il joue avec ses 2 petits garçons. Vitry, le capitaine des gardes, lui dit que s'il doit sortir, il va l'accompagner, qu'en ce moment la ville est pleine d'étrangers et d'inconnus. Et le roi lui répond qu'il se regardera bien tout seul. Il veut aller voir Sully. Il ne cesse de dire à sa femme, « Mamie, irai-je? N'irai-je pas ?» Il sort dans la cour du Louvre. Il salue tous ceux qu'il rencontre. Il écarte Pralin, un autre capitaine des gardes, qui veut l'accompagner aussi. Il atteint le carrosse. Il enlève son manteau, monte, s'assied à gauche sur la banquette du fond. Le duc d'Épernon, à côté de lui, Liancourt et Mirbeau. Il est 15h45. Le roi veut voir les préparatifs de l'entrée de la reine. Quelques gentils hommes à cheval accompagnent la voiture. Les valets de pied sont aux portières. Dans le prolongement de la rue Saint-Honoré, il y a la rue de la Ferronnerie. Mais la rue de la Ferronnerie, elle se resserre à cause des échoppes qui sont devant les maisons. Si bien que l'escorte ne peut pas rester aux portières. Il y a une charrette de foin et une autre de tonneau qui obstruent le passage. De toute façon, les valets qui étaient aux portières descendent pour aller dire au conducteur de ces deux véhicules de se dégager de là pour que le roi puisse passer. C'est alors qu'un colosse à la mine farouche met le pied sur l'un des rayons de la roue arrière droite, l'autre sur une borne. Il a un long couteau effilé. Il atteint le roi entre la deuxième et la troisième côte. Sous la douleur, le roi a relevé le bras gauche qu'il avait posé sur l'épaule du duc de Montbazon. Ravaillac frappe à nouveau plus bas et plus profondément. La lame traverse le poumon gauche, tranche la veine cave, crève l'aorte. La force, le seul huguenot du groupe, a compris le premier ce qui arrive et écrit au roi ces mots, essentiels pour lui comme une extrême onction. « Ah, sire, souvenez-vous de Dieu !» On se jette sur Ravaillac. M. de Montigny le conduit à l'hôtel du duc de Retz. Il sera bien sûr torturé et exécuté en place de grève. Retour au Louvre, Henri est étendu sur un lit dans le petit cabinet de la reine. Le médecin, petit, s'adresse au roi qui ouvre trois fois les yeux et les referme. C'est fini. La reine s'effondre au pied du lit. Le dauphin, lui, était parti visiter les préparatifs. Vitry le rejoint, fait faire demi-tour au carrosse. Et au pied du lit, Louis, 9 ans, s'écrie « Ah, si j'eusse été avec mon épée, je l'aurais tué !» Mais le soir, au souper, il s'écrie « Je voudrais n'être point roi et que mon frère le fût plus tôt, car j'ai peur qu'on me tue, comme on a fait au roi mon père. » Au revoir à tous.